On a une belle nature morte vivante.
C'est très joli.
C'est beau, ça.
Un courbet.
Oui, c'est ça. C'est un courbet végétal.
Ouais.
Des asperges nues.
Ah, ou c'est peut-être manet, plutôt. Il y a des trucs comme ça dans...
Eh ben voilà, on est dans du manet avec des petits pois, des asperges.
C'est plus fou. C'est vraiment l'impressionnisme, alors que c'est avant Manet.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Comédien, chroniqueur, auteur, chanteur, François Morel vient nous voir avec un très beau spectacle sur un poète et marin breton disparu en mer. On va en parler.
Hélas,
tous les marins sont des chanteurs, c'est le titre. L'humoriste Sandrine Saroche titille les politiques sur Paris Première. Elle va se mettre à table avec nous ce dimanche.
Super.
Emmanuel Rubin, notre gastronome en chef, sera des nôtres. Et puis en cuisine, David Paulin, le chef du Bon La Butte, est descendu de Montmartre avec un beau menu dimanche. Bonjour François Morel.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ah ben plaisir.
Ah ben je suis très content de vous recevoir parce que en
ah
plus,
bon
bah oui, c'est compliqué de vous attraper parce que vous avez un emploi du temps très chargé, dites donc. Hein.
Bah dites donc, je m'occupe.
La radio tous les vendredis.
Je m'occupe, sinon je bois.
C'est une bonne raison, ouais. Mais en même temps, ça n'empêche pas non plus.
On
va boire avec plaisir et avec modération. Et là, vous êtes sur la scène du Théâtre du Rond-Point avec un très beau spectacle qui s'appelle « Tous les marins sont des chanteurs ». C'est drôle, c'est intelligent, c'est émouvant, c'est poétique. Je le dis au
C'est un peu potache.
C'est un peu potache,
ouais.
C'est un peu folklorique aussi, parfois, je trouve.
Ouais.
Vous amusez.
Oui, puis c'est un spectacle de bande, de troupe. Je suis bien entouré. Il y a Romain Lemire, Antoine Salaire, Amos Ma, Muriel Gastebois. Je crois que j'ai oublié personne. Et c'est Gérard Mordillat avec qui j'ai écrit le texte, qui vient faire le conférencier de temps en temps. Et ouais, c'est une histoire de bande, quoi.
On va en parler. Et puis surtout, c'est une histoire vraie parce que vous êtes inspiré. Vous allez nous raconter comment est venue l'idée de ce spectacle, de la vie d'un poète marin breton disparu à l'âge de 30 ans, hein, très très jeune.
Ben oui.
Et on va en causer de ce beau spectacle. Qu'est-ce que vous faites le dimanche habituellement, comme ça, sur les coups de 11h?
En général, je fais mon petit marché.
C'est ça, je vous imaginais bien au marché.
Ouais, je fais mon marché. Soit je vais à... Ah oui, le marché, c'est Aubonne, le dimanche matin. Donc souvent, je suis sur le marché d'Aubonne.
C'est où, Aubonne?
Aubonne, c'est dans le Val d'Oise. C'est pas loin d'Anguin, Saint-Leu-la-Forêt, par là. Je suis pas loin de la forêt de Montmorency.
Ah, voilà, c'est
voilà,
ça.
Ouais. Bah, quand notre petit garçon avait 2-3 ans, on s'est dit que ça serait mieux d'habiter un peu plus loin de Paris.
C'est
voilà.
Ça. Un petit peu
J'aime bien Paris aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est
J'aime bien l'équilibre entre les deux.
Il faut, voilà, le vrai luxe, c'est ça, c'est de pouvoir faire les deux, effectivement. Vous aimez cuisiner, donc, si vous faites le marché le dimanche, François Morel.
Ouais, mais je crois que ma femme cuisine mieux que moi, donc souvent c'est elle qui cuisine, mais j'aime bien cuisiner. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner?
Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais ce que je peux, mais je fais souvent des trucs avec la recette, moi, parce que j'oublie d'une fois sur l'autre. Je fais des gougères bourguignonnes, par exemple.
C'est bien, ça.
Ouais, mais...
C'est une belle mise en bouche pour des
marins. Voilà, avec, hein, un petit chytri. Par
oui,
exemple,
oui, voilà,
en apéro.
Oui, ça c'est bien.
Ouais.
C'est pour bien démarrer le dimanche. Et ben, je vous présente quelqu'un qui va nous permettre de bien attaquer le dimanche aussi. Il s'appelle David Paulin, c'est le chef du restaurant Le Bon La Butte à Montmartre. Bonjour David.
Bonjour.
Je suis content que vous soyez avec nous, David, parce que vous êtes un chef qui cuisine les saisons. Vous allez nous parler de votre univers. Mais vous descendez de La Butte, qui est l'univers des cabarets, des chansonniers. Et on retrouve cet univers dans votre spectacle.
Non, ah ben non, le chat noir, c'est en bas.
En bas de la rue Le Pic.
Et en haut, il y avait quoi là-bas?
Le lapin Gilles.
Le lapin Gilles, ouais. Ça existe toujours.
Ça existe toujours.
C'est le lapin Gilles, c'est là où avait démarré d'ailleurs De Funès.
Ah ouais,
en tant que pianiste de bar. Ouais.
Et je me demande aussi Nougaro, je crois qu'il a fait des trucs là-bas.
Ouais, peut-être, oui. Ouais.
Nougaro et Jean-Roger Cossimon, tous ces gens-là.
Ouais. Tous ces gens-là étaient lapin Gilles beaucoup. Ouais,
qu'est-ce qu'on mange alors pour faire honneur à notre cher François Morel?
Alors on m'a parlé du Guilvinec, donc
port breton,
et donc on va travailler la demoiselle du Guilvinec aujourd'hui.
Vous la connaissez, la demoiselle du Guilvinec?
L'ormeau?
Non, la langoustine.
La langoustine, ah bah très bien.
Une très belle langoustine. On va travailler aussi sur le voyage. Je vais vous préparer des gyoza avec ces langoustines, légèrement citronnées.
Et ravioli japonais, donc.
Voilà, hein. Et j'ai fait une petite émulsion avec un petit peu de betterave et de la rhubarbe.
Ça, ce sera pour l'entrée. Et en plat, un plat rassembleur pour nos auditeurs qu'ils pourront refaire ce dimanche, s'ils ont les ingrédients ou plus tard.
Voilà, bon, il commence à faire chaud.
Oui.
Et moi, la côtelette d'agneau, c'est quelque chose que j'aime le dimanche, quoi. Ça, avec des petits légumes, on a tout ce qui est arrivé en ce moment.
Ils sont beaux, vos petits légumes, là.
On a des asperges, on a les premiers haricots verts qui arrivent de Rognes, à côté de
Qu'est-ce qui vient de Rognes? Les petites asperges
les petits, non, les petits haricots verts.
Ah, d'accord.
Et les petits pois aussi.
C'est les premiers, dites donc, parce que dis donc, ils sont avancés, les haricots verts. Des haricots verts au mois de mai, c'est la première fois que je vois ça.
Bah, il fait chaud en bas.
Oui, c'est ça, il fait chaud en bas.
Il fait chaud en bas.
C'est exactement ça. Donc, clin d'œil au Guil Vinec, parce que votre spectacle s'adresse à Yves-Marie Le Guil Vinec, poète et marin breton disparu, et cette belle demoiselle du Guil Vinec qui va être transformée en gyoza. Quel genre de pâte, là, vous êtes en train de travailler la pâte?
C'est une pâte à gyoza, c'est simplement de l'eau et de la farine de riz.
Ben voilà, donc c'est simple. D'accord. Est-ce que ça vous met en bouche, François Morel?
Oui, carrément.
Hein, tout vous plaît?
Ben oui.
Hein, vous dites,
j'aime bien manger, moi, comme activité.
Je trouve que votre spectacle est une déclaration d'amour à la Bretagne aussi.
Vous savez que ma grand-mère était de Lambézélec.
Alors c'est ça, à côté de Brest. Hein.
Ben, maintenant, je crois que ça fait partie de Brest.
Ça fait partie de l'agglomération de Brest.
C'est pour ça que les Brestois souvent disent « je suis de Brest même ».
C'est ça.
Parce que quand on n'est pas de Brest même, on peut être de Lambé, et c'est moins bien.
Ah oui, avec les communautés de communes, on englobe.
C'est plus popu, Lambé, mais ma grand-mère était de Lambé.
Qu'est-ce qu'elle vous faisait à manger, votre grand-mère?
Elle faisait des pommes de terre au four. Avec du lait. C'était un peu brûlé et je sais pas, moi j'adorais ça.
Des pommes de terre brûlées de mémé.
Ouais. Et puis aussi, elle faisait du phare breton. Tous les samedis, on avait droit au phare breton, ce qui des fois déplaisait un peu à ma mère parce qu'elle aurait bien aimé qu'elle change un peu la recette, quoi. Parce que c'était vraiment très régulier, le phare breton.
Et, oui.
Et sans pruneaux, c'est normal ou pas? Le phare breton, il est avec des pruneaux ou pas?
Le vrai, au départ, est sans pruneaux. Oui.
Ah, c'est
oui,
ça. Voilà. Donc, elle faisait le vrai sans pruneaux.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Nous revoilà en cuisine autour de François Morel avec le chef David Paulin au fourneau.
C'est beau de le voir travailler.
Il est descendu de la butte Montmartre. Le bon, la butte, c'est son restaurant. Et il nous fait de beaux gyoza japonais avec des langoustines. Qu'on appelle également la demoiselle du Guil Vinec. Alors, Guil Vinec, ça c'est un nom qui ne vous est pas étranger, cher François Morel.
En fait, c'est son pseudonyme, Yves-Marie Le Guil Vinec. Parce que c'est sa maman qui était du Guil Vinec.
C'est ça.
Mais lui, c'est un gars le corps.
Alors
quoi?
Moi, je vous crois. Quand François Morel me parle des choses concernant notre patrimoine territorial, de ruralité, de Bretagne, je le crois. Donc, tous les marins sont des chanteurs. C'est votre spectacle au Théâtre du Rond-Point. Vous nous racontez que vous avez découvert dans un vide-grenier à Saint-Lunaire des recueils d'un poète marin breton disparu.
Ouais, en couverture, il y avait la chanson La Cancalaise. Et ça, c'était la chanson que chantait mon oncle Octave.
Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a existé, ce Yves-Marie?
Mon oncle Octave? Ben un peu qu'il a existé, mon oncle Octave. Il passait ses après-midi à compter les voitures sur la route de Caen.
Oh, j'en connais des comme ça.
Et
aussi,
il disait, tiens, il en est encore passé 748 cet après-midi. Ben, ça fait
Il en existe encore des oncles Octave partout en
mais
France.
Mais plus mon oncle Octave, il existe plus.
Ouais, mais il y en a qui ont pris le relais.
Il habitait avec tante Léontine.
Qui compte les voitures.
Ouais.
Bon, là, vous m'embrouillez avec tante Octave. Mais alors, est-ce qu'il a existé, ce Yves-Marie Le Guil Vinec, ou c'est pure fiction, pure imagination?
Du moment que, puisqu'on l'a inventé, c'est vrai, non?
Ah voilà, donc il existe sur scène.
Voilà, il existe bien. Hamlet, est-ce qu'il a existé?
C'est génial parce que moi, vous m'avez embarqué complètement. Je suis venu vous voir la semaine dernière sur scène dans votre
spectacle.
Vous
étiez même à la première.
Oui, exactement. J'étais à la première
souviens.
Au Théâtre du Rond-Point, absolument. Et j'ai passé un très, très bon moment. Et c'est vrai que je me suis dit... Il a dû exister parce qu'il y a tellement de précisions. Vous nous présentez ses frères qui ont disparu en mer, vous nous parlez de sa mère. Il y a une sorte de diaporama derrière, il y a une très belle mise en scène parce que vous êtes nombreux, hein, c'est un spectacle de troupe. On ne peut pas tout raconter, mais je le dis, tiens, aux provinciaux qui viennent à la capitale, ça fait partie des endroits qu'il faut visiter avec un bon spectacle comme
Théâtre
du Rond-Point.
Mais on va aussi beaucoup en province noire.
Oui, vous êtes beaucoup en tournée. Oui,
en tournée tout le temps, moi. J'aime bien ça. Et c'est le même spectacle. Je déteste les gens qui disent on va rôder un spectacle en province.
C'est méprisant.
Ça me dégoûte.
Oui, moi aussi, j'aime pas
expression.
Ça. Oui, oui.
Mais on est content que la tournée passe par Paris parce qu'il y a pas mal de monde, quoi.
Ça, c'est joliment dit, la tournée passe par Paris.
Ben oui, c'est
voilà,
vrai.
C'est ça. Donc, il n'a pas existé, cet Yves-Marie Le Guil Vinec.
Il a existé.
Voilà, il est. Donc, je disais, c'est une déclaration d'amour aussi à la Bretagne, ce spectacle. Comment vous est venue cette idée? Parce qu'au départ, il y a un livre que j'ai là, « Tous les marins sont des chanteurs ». Il y a même un CD, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais vous passez votre temps à chanter dans ce spectacle. Vous chantez tout le temps.
Et je m'en excuse.
Et vous chantez très bien.
Ah oui.
Ah ouais, vous amusez, ça se voit.
J'ai pris des cours de chant.
Et vous dansez aussi.
Oui.
Ah si, il y a de jolis pas de danse.
Ouais.
On est proche du folklore breton.
Marcella Mont, il m'avait dit ça, il était venu voir un spectacle. Il m'avait dit, franchement, tu joues bien, tu écris bien, mais alors tu es un danseur épouvantable.
Ah non, moi j'aime bien.
Mais non, mais il m'avait dit aussi, mais que vu que personne ne danse comme toi, il faut que tu continues à danser comme toi parce que tu es vraiment le seul. Je crois qu'il y avait de l'ironie dans ses paroles.
Probablement. Alors à cette heure-ci dans l'émission, François Morel, on aime bien jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour découvrir le passé de nos invités. Vous avez grandi en Normandie.
Ouais.
Vous rêviez d'être sur scène quand vous étiez enfant ?
Je voulais être Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. C'est ça que je voulais faire. Je voulais être dans les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier. Je voulais faire artiste.
Il y a eu un déclic, il y a eu un moment comme ça qui a fondé cette envie.
Ça s'est fabriqué tout le temps. Enfin, c'était mon rêve, quoi.
On m'a parlé d'une chanson, un repas de famille.
Ah, moi. C'est vrai. Parce que j'avais chanté Les Marionnettes de Christophe. Sais plus si c'était la communion de ma sœur ou je sais pas quoi, mais j'étais petit. Et je me souviens du trac que j'avais avant, parce que j'étais quand même j'étais assez timide, j'étais assez intimidé. Et le bonheur que j'ai eu d'être sur la table du repas familial, et puis d'être applaudi. Et j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. J'ai eu un moment je me suis dit, oui, il faut que ma vie ressemble à ça, quoi.
Il n'y a pas que vous qui chantez, vous entendez ?
Ouais, c'est joli.
Ça chante du côté du fourneau.
C'est appétissant, dites donc.
Qu'est-ce qui chante comme ça, David Paulin ?
Là, j'ai mis les gyozas à cuire. Donc, on les fait revenir simplement au départ avec un petit peu d'huile.
Pour les griller, quoi.
Pour les griller. Il faut que le dessous soit croquant. Et après, on rajoute un petit peu d'eau et on couvre pendant une ou deux minutes pour que ça soit bien tendre à l'intérieur.
Un peu à l'étuvée à la fin de la cuisson. Ah oui, d'accord.
Et ça se mange tiède ?
Ça se mange chaud.
Ouais.
Ça se mange chaud.
C'est-à-dire qu'on va bientôt manger.
Voilà. Et comment c'est bientôt c'est l'heure bien. du grignotage, comme on dit dans cette émission. Donc, vous avez fait l'école de la rue Blanche ensuite aussi, François Morel. École prestigieuse quand même, parce que Marielle,
Jean Rochefort. C'est-à-dire, eux, ils ont fait le conservatoire. Bon.
Ils disaient
que c'était la voie royale.
La bande du conservatoire, c'est
ça. On disait la voie royale, c'était de passer par la rue Blanche, après le conservatoire, et parfois la Comédie Française à la fin. Mais moi, j'ai fait juste la rue Blanche. Mais je suis arrivé un peu tard parce que j'avais fait une maîtrise de lettres avant. Moi, je m'approchais une maîtrise de lettres à l'Institut Théâtral, qui était dirigé par un monsieur que j'adorais, qui s'appelait Robert Abirached. Et où j'ai appris le théâtre, mais d'une façon un peu plus livresque, peut-être moins physique. Mais moi, j'avais envie d'être sur le plateau.
Au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, vous êtes sur le plateau et ça marque un petit peu des retrouvailles avec Jean-Michel Ribes, qui vous avait fait tourner dans Palace à vos tout débuts.
En 1988. Ouais, c'était Alfred Le Groom. Voilà. Il avait été très encourageant avec moi. Je lui avais dit que j'écrivais un peu parce qu'il y avait des dates où je ne pouvais pas être là parce que je faisais un spectacle que j'avais écrit. Il m'avait dit, oh, si tu écris des choses, propose-moi des textes pour ton personnage Alfred Le Groom et si ça me plaît, on les tournera. Et ça quelques-uns lui ont plu, on en a tourné un certain nombre, donc ce qui m'a fait plaisir et ce qui était hyper encourageant, quoi.
Et quelques années plus tard, eh ben, y a eu la fameuse série des Deschiens, dans Nulle part ailleurs, sur Canal+, avec la troupe
et
de Jérôme Deschamps.
Et surtout aussi la troupe au théâtre.
Oui, c'est ça, avant la série
Encore
Les Deschiens,
plus,
la troupe au théâtre.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, cet esprit de troupe, ce travail de troupe avec toute cette bande créative?
Ça m'a formé, je crois, surtout. Ça m'a formé. Ça m'a d'abord fait une bande de copains pour la vie, parce que Yolande Moreau, Olivier Saladin, Olivier Broche, ce sont vraiment des proches, des gens que j'aime et avec qui j'ai continué à travailler.
Ils vous ont aidé à développer votre univers, parce que moi, quand je vous ai vu sur scène la semaine dernière, vous m'avez fait penser à plein de gens que j'aime, que j'ai en référence, que peuvent être Bourvil, que peuvent être De Vos, Pierre Perret. Cette tendresse et cette émotion et puis cette drôlerie en même temps, ça vous l'aviez, j'imagine, déjà en vous, mais est-ce que Jérôme Deschamps a fait accoucher ça ensuite, ou est-ce que vous aviez déjà votre, entre guillemets, votre personnage comme ça?
Il s'est développé en tout cas à cette période-là, et puis sûrement que c'est aussi une façon de me donner confiance, c'est-à-dire les gens voient tout quand on est dans une salle, et l'obsession de la précision et du détail dans les spectacles de Jérôme Deschamps et de Macha Makaïev, je pense qu'il transparaît toujours, et que je me dis que quand on fait rire 2-3 personnes en répétition, souvent on en fait rire 500 ou 1000 le soir, si c'est juste, quoi. Donc il s'est trouvé la sincérité absolue du jeu, et c'est sûrement ce qu'ils m'ont appris.
Oui, c'est bon signe quand on est plusieurs à rire. C'est pareil en cuisine, hein, David Paulin, quand on est plusieurs à apprécier le plat, il est content, le chef. Et
Exactement.
Alors là, il est là devant nous. Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait avec ces gyozas? Là, c'est un petit coulis de betterave.
C'est un coulis de betterave et de rhubarbe.
Dis donc, par erreur, vous avez mis une fleur au milieu.
C'est
qu'est-ce qui s'est passé?
C'était le printemps.
C'est votre côté bucolique.
Ah oui.
Les fleurs se mangent.
La pensée, la capucine.
Ça, c'est une pensée.
Ça, c'est de la capucine.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
C'est la table du dimanche de François Morel qu'on retrouve sur scène avec un très beau spectacle drôle et chanté. Ça s'appelle « Tous les marins sont des chanteurs » au Théâtre du Rond-Point. C'est jusqu'au 3 juillet. Donc allez-y, vous passerez un très bon moment. Et là, on est en train de passer un bon moment hein, déjà au niveau du visuel avec ces gyozas.
Je peux commencer ou pas
hein? Eh bien, on peut commencer. On va récupérer un petit couteau et on sera au top. Un petit rappel sur la pâte, tiens, David Paulin. Donc, c'est de la pâte de feuilles de riz, hein, tout simplement.
Oui, c'est de la pâte de feuilles de riz.
Ça, chez tout, ça.
Alors, ça, on en trouve un petit peu partout dans tous les magasins chinois, japonisants. Il y en a énormément. Puis, on peut rouler soi-même et les ravioles, ces ravioles, sans avoir toute la difficulté de faire une belle pâte à ravioles, qui est quand même.
Juste un petit coup de main du pliage qu'on a vu.
Juste un pliage, ou alors on peut les faire en rond. Après, c'est le.
Et qu'on verra sur europe1.fr.
Et sur le site, vous donnez toute la recette ou pas?
Toute la recette, bien sûr.
Et la sauce, là, comment vous faites ça?
C'est très simple. On fait revenir de la rhubarbe avec dans du beurre, un petit peu de sel. On met du jus de betterave et un tout petit peu de bouillon de légumes. Et on fait réduire.
Excellent.
Demoiselle du Guilvinec en écho à Yves-Marie, le Guilvinec, ce marin poète-chanteur, dans le spectacle de François Morel.
C'est bon. Vous n'avez pas de pain, on n'a pas le droit de saucer. Hein, chez vous.
Si.
On n'a pas le droit.
Si. C'est important.
On a le droit, bien sûr que si. Ah, mais bien sûr qu'on a le droit de saucer.
C'est dommage de laisser la sauce comme ça.
Ah, ben non, faut laper même. On peut même laper.
On peut laper.
On peut laper, mais bien sûr. Vous avez le droit de laper. Mais lapons, voyons. Mais voyons. David Paulin, elle est délicieuse, cette farce avec la langoustine. Comment elle est travaillée, racontez-nous.
Elle est ultra simple. Je ne vous cache pas que les langoustines sont arrivées il y a moins de 2 heures à mon restaurant. Donc, on enlève simplement la chair de la langoustine. On la taille, on enlève le petit canal qui n'est pas bon. On la taille en petits morceaux. J'ai rajouté du basilic citron, d'huile, un tout petit zeste de citron et un petit peu de sel. Voilà. Et on laisse travailler une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, on monte ces gyoza, tout simplement.
C'est délicieux, ça. Bon, on se régale.
Et surtout, c'est comme tous les fruits de mer et tous les crustacés, c'est très, très peu de cuisson.
Sinon, oui, c'est ça.
Ça devient difficile.
Ça cuit de peur, comme dirait Jean-François Piège.
Vous êtes originaire d'où?
Moi, je suis originaire de Marseille. D'accord. Enfin, de Salon de Provence, à côté de Marseille.
On va raconter votre histoire, parce qu'on parlait de l'audace tout à l'heure. Il faut oser pour monter sur scène, il faut oser pour être en cuisine, surtout que ce n'est pas le premier métier de David Paulin. Racontez-nous ce que vous faisiez avant, David.
Non, du tout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans les radios dès 1981. Et voilà, donc quand j'étais petit, je rangeais des disques et je travaillais avec des Revox et des choses comme ça. Et je suis devenu un gesson progressivement. Ah oui. J'étais un gesson jusqu'à l'âge de 40 ans.
J'aimerais qu'on parle de votre gourmandise, tiens aussi, François Morel. Pas la gourmandise des mots, hein, on vous connaît amoureux des mots, notamment dans votre chronique le vendredi aussi sur France Inter, mais la gourmandise de la table, à tel point que vous avez prêté votre voix à un très beau documentaire sur France 5, La France au fourneau, qui racontait notre histoire à tous, commune, avec l'évolution de l'alimentation de la table et des émissions de télévision aussi autour de la cuisine.
C'était formidable parce qu'on voyait un peu l'évolution des 50 dernières années, quoi, la vie, comment la vie avait changé dans les familles, dans la vie sociale, etc. Comment les obsessions des gens avaient bifurqué, avaient évolué. Et c'était comme un livre de famille qui pouvait appartenir à tout le monde. Et c'était très agréable de tourner les pages de ce documentaire qui était en plus extrêmement bien écrit.
Très bien écrit, puis qui raconte effectivement notre évolution à travers la table. Et en très peu de temps, 50 ans, il s'en est passé des choses. Hein.
Il s'est passé, moi j'ai le souvenir aussi des déjeuners familiaux qu'on faisait, où on mangeait de la langue. Après l'entrée, après la langue, il y avait eu du poisson et après la viande.
Un peu engelé, une sorte de saumon un petit peu parfois, quand c'était jour de fête.
Ça a beaucoup évolué, quoi.
Ça a beaucoup évolué.
C'est pas plus mal que ça évolue, on mange un peu moins quand même.
On mange un peu moins, oui, c'est vrai qu'on a longtemps confondu bien manger
et
beaucoup manger, effectivement.
Nous, il y avait le trou normand en plus.
Ah bah voilà, c'est pour dissoudre les graisses.
Bah oui, oui. Hein, comme... Bah, c'est pas du gaieté de cœur, vous savez.
Comme dirait Gabin de Funès dans Le Tatoué, hein, quand ils attaquent le chou farci. C'est vrai que dans ce spectacle, tous les marins sont des chanteurs au Théâtre du Rond-Point. Je trouve qu'on retrouve là encore une fois votre amour de la France, de nos personnages. Ça m'a fait penser, vous savez, à ces vieilles cartes postales qu'on a tous dans nos familles. Et on voit des gens et on se dit, tiens, qui étaient-ils ? Que faisaient-ils ? Quelles étaient leurs pensées ? Ça nous plonge dans la mémoire de nos ancêtres aussi, ce spectacle, de manière gaie et rigolote.
Mais en fait, c'est marrant, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup... Moi, j'adore la chanson. Et on fait des chansons extrêmement traditionnelles, comme on chantait à la fin des repas. Moi, à chaque fois qu'il y avait un repas de famille, ça se terminait par la chanson de chacun. Et chacun chantait la même chanson. Mon oncle Marcel chantait les gars de la marine. Mon père chantait Besame Mucho, etc. Et c'était à chaque fois la même, quoi. Et y a de la chanson comme ça. Et en fait, la chanson, ça fait extrêmement plaisir à tout le monde. Et c'est aussi cette tradition-là avec laquelle j'ai eu envie de renouer dans ce spectacle.
Oui, et puis la chanson réaliste, comme on dit. Il y a ce côté, effectivement, où on voit tout de suite les scènes et ce qui se passe.
Alors, des fois, on s'en moque un peu aussi.
Oui,
quoi,
un petit peu.
On n'est pas ennemis de l'humour.
Oui, et quand vous vous moquez, vous dansez beaucoup, j'ai remarqué. Au Théâtre du Rond-Point. Alors, c'est vrai que ce spectacle aussi est l'occasion de rendre hommage à des chansonniers qui ont traversé nos époques. Eh bien, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui n'est pas un chansonnier, mais pas loin, part, parce qu'il aime bien agiter les mots autour de la fourchette. Lui, c'est Emmanuel Rubin. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
On vous retrouve tous les dimanches ici et on vous lit dans Le Figaro. Et c'est vrai que la venue de François Morel et de ce spectacle autour de la Bretagne et des marins au long cours vous a donné envie d'aborder la gastronomie côté pirate des mers, côté flibustier.
Tous les marins sont des chanteurs, je ne sais pas, sûrement. Mais en tout cas, tous les marins ont été parfois des grands cuisiniers. Et je vais vous raconter en quoi les pirates, les flibustiers, les corsaires et les boucaniers ont fait évoluer notre manière gastronomique.
À ce point-là.
À ce point-là, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. François Morel est avec nous jusqu'à 12h30. David Paulin du restaurant Le Bon La Butte à Montmartre est au fourneau. On vient de dévorer un gyoza de langoustine.
Vous n'avez pas fini?
Ben non, parce que je cause, moi. Je cause plus que vous.
Ouais.
Mais vous avez bien la paix. Hein.
Oui, j'ai la paix.
C'est bien, bravo, on vous félicite. Et ça, c'était que l'entrée, parce qu'on rappelle le plat que nos auditeurs pourront refaire aussi, David.
Alors, j'ai travaillé un carré d'agneau, donc plutôt la partie côtelette, qu'on aime bien le dimanche, juste cuite comme ça, au dernier moment. Là, je l'ai travaillé un petit peu plus. Je l'ai fait cuire pendant 17 heures en basse température pour qu'on ait un moelleux et un goût assez incroyable. En plus, c'est un produit d'exception que je vous ai ramené.
17 heures de cuisson, à quelle température pour la cuisson?
À 58 degrés.
Ah oui, donc c'est une cuisson très, très lente.
Très, très lente.
Et très douce.
Comme ça, on garde le jus, on garde tout. Et au dernier moment, on fait saisir.
Tous les marins sont des chanteurs au Théâtre du Rond-Point. C'est votre spectacle, cher François Morel. Vous êtes une belle troupe sur scène. Hein. Vous l'avez écrit avec Gérard Mordilla et Antoine Salaire, ce spectacle qu'on retrouve à côté de vous sur scène en maître musicien. On sent que vous aimez partager l'esprit de troupe. Vous vous amusez sur scène. Vous sautillez. Vous chantez. Et vous chantez très, très bien. Moi, je vous avais jamais vu chanter sur
scène.
Comment ça
se fait ?
Mais je ne sais pas. J'ai raté.
Bah oui.
Je suis passé à côté. Non, mais c'est important, ça, de se faire plaisir sur scène quand on fait un métier pareil. C'est...
Bah oui, si on se fait plaisir, des fois on fait plaisir aux autres. C'est un peu le principe. Comme un cuisinier, je pense. Hein, non, s'il se fait plaisir lui-même, il a plus de chances de faire plaisir aux autres.
Tous les marins sont des chanteurs est un projet protéiforme. Il y a d'abord un livre que j'ai en main, paru chez Calman Lévy, un disque, ensuite on retrouve vos chansons, avant de sortir en spectacle. C'est bien pensé, hein? C'est pour que personne n'oublie.
C'est très mal pensé.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'on aurait dû sortir le disque en même temps que le spectacle.
Le
disque est sorti il y a 2 ans. Alors les gens ont oublié.
Ah, bah,
et puis entre-temps, je ne sais pas si vous avez été au courant du Covid.
Il paraît, il y a eu une épidémie.
J'ai appris ça. Et alors donc ça nous a empêchés de jouer ce spectacle qu'on devait créer en Bretagne et qu'on a créé à Istres, qui est à 20 km de Marseille, ce qui est vraiment le sud extrême de la Bretagne.
Alors on va quitter le sud de notre plan de travail pour aller à la salle à manger, retrouver Emmanuel Rubin. On va ouvrir la porte, tiens, je vous dis tout, chers auditeurs, parce qu'il fait chaud ici. Et on va créer un beau courant d'air. Et on va retrouver Emmanuel Rubin à table, qui nous attend vaillamment. pour nous parler donc des corsaires. Installez-vous là, tiens, François. Et Sandrine Saroche, qu'on retrouve sur Paris Première, humoriste caustique et corrosive qu'on aime beaucoup, sera à table d'ici quelques instants en face de vous. Alors, Emmanuel Rubin, la nouvelle création de François Morel vous a conduit à rêver de mer et de corsaire. Et vu par le petit bout de la fourchette et non de la lorgnette, hein, vous estimez qu'on leur doit beaucoup à ces pirates.
Ah oui, et en fait, ce n'est pas moi qui le raconte, c'est l'histoire. Et notamment tous les récits qu'ils ont laissés, ces marins, ces pirates, ces corsaires, ces flibustiers, car ils aimaient prendre la plume, au moins autant que la fourchette et la lorgnette. Et c'est vrai qu'on leur doit énormément. Alors, il faut savoir d'abord que chez les pirates, les corsaires, les flibustiers, tout est très organisé à bord. En ce qui concerne véritablement les pirates, on a pu parler de micro-sociétés. Alors, c'était un phalanstère, ils étaient très proudhoniens avant l'heure, et tout est très organisé. Et le chef avait un rôle très particulier. D'ailleurs, on ne l'appelait pas le chef, on l'appelait le coq. Et il orchestrait, nommait les nourritures à bord à travers ce qui est laissé aujourd'hui, tout le monde emploie le mot, à travers la cambuse. Sa cuisine était la cambuse. Nombre de restaurants s'appellent la cambuse, et bien ça vient des corsaires.
Alors qu'est-ce qu'ils cuisinaient dans le coq dans cette cambuse ?
Leur génie, on pourrait dire qu'ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la world food, la fusion food avant l'heure. Ce sont des marins qui prennent la mer. Au premier temps, ils remplissent leur cale en long, en large et en traverse. Et ils se font un devoir de manger à bord comme on mange sur le continent. Simplement, comme le dit très bien la chanson, un jour, les vivres viennent à manquer. Et là, ils vont rivaliser d'ingéniosité. Et l'ingéniosité, c'est l'antichambre de la cuisine. Ils vont devoir faire avec les contingences, avec les restrictions. Et ils vont inventer beaucoup de techniques qui, aujourd'hui encore, sont vraiment quelque chose qui matrice la cuisine. Et puis, bien sûr, ce sont des baladins. Ce sont des gens qui se baladent à travers les mers. L'une de leurs mers fétiches est la mer Caraïbe. Et si la cuisine créole, aujourd'hui, est aussi prégnante dans nos goûts, à travers les épices, à travers certains poissons, eh bien, on le doit aux corsaires.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont vraiment colporté les épices.
Voilà, celui-là, à bord, il aurait été viré, jeté à travers...
Et il serait aussi, selon vous, à l'origine d'une pratique qui voit sa saison commencer, le barbecue.
Exactement. Alors, on leur doit des épices, on leur doit beaucoup de fruits, de sucré salé. L'avocat, ce sont les corsaires qui nous l'ont fait connaître. Mais il y a une technique qu'ils vont découvrir à travers le monde créole, c'est le boucanage. Le boucanage, c'est effectivement l'ancêtre du barbecue. On prend quelques braises, on met une grille, par-dessus on met des chairs, poissons, crustacés, viande, on couvre et on va cuire lentement. Ce qui fait que la chair va garder son intégrité et surtout pouvoir durer dans la longueur et durant les longues marées, les longues traversées.
Du grillé et du fumé au niveau des arômes.
Exactement, donc ils nous font découvrir le poisson fumé et le poisson grillé. Le boucanage est véritablement l'ancêtre du barbecue. Ce qui avait de bien, c'est qu'ils pouvaient le préparer avant de prendre la mer. Et même sur la mer, vous savez que c'est terrible la cuisson et le feu à bord. Mais avec le boucanage, ce sont des braises lentes. Donc il n'y avait pas de risque véritablement de fumer. Et on leur doit véritablement ce qu'on a appelé la cuisine boucanière. Et d'ailleurs, on parle de corsaires, on parle de pirates, on parle de flibustiers. Un nom va leur être accordé, formidable, lui aussi le fait rêver, les boucaniers.
Eh ben merci Emmanuel Rubin, des boucaniers qu'a connu votre Yves-Marie Le Bourdonnais. Le Bourdonnais, c'est un boucher. Ouais. C'est un boucher, Yves-Marie
Ils
Le Bourdonnais.
Ils étaient cousins d'ailleurs,
Yves-Marie
je crois.
Yves-Marie Le Guilvinec, cousin de votre poète marin.
Pur breton, hein, de Pleubian.
Évidemment.
Pur beurre.
Ah, vous parlez du boucher là.
Du boucher, il est de Pleubian lui.
Est-ce que tout le monde...
Du sillon de Talbert.
D'accord. Est-ce que tout le monde mangeait la même chose sur le bateau?
Alors, il y avait des hiérarchies, vous avez raison, tout le monde ne mangeait pas la même chose, tout était très partagé, comme les butins qu'on récupérait, selon son action durant les combats. Donc, effectivement, les hommes qui devaient activer le bateau avaient véritablement des vraies parts, le capitaine avait une large part, et puis moins on était important dans la hiérarchie, moins on mangeait, et moins on se distribuait le trésor. Et d'ailleurs, le coq, le fameux cuisinier, n'avait pas le droit à un gros trésor.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire, nous sommes toujours en compagnie de François Morel avec David Paulin du restaurant Le Bon, la Butte en cuisine. Comment ça se passe du côté des fourneaux? On a parlé effectivement de ce carré d'agneau cuit longuement à basse température, mais on n'a pas parlé de la garniture. Qu'est-ce qu'on mange avec alors?
La garniture, j'ai fait des petits légumes de saison, tout simplement revenus à l'huile d'olive, tout simple.
Voilà, donc c'est les petits haricots verts, les premiers dont on parlait.
Les premiers qui arrivent du sud. On a les petits pois. J'ai mis un petit peu de pousse d'épinards, des toutes petites carottes et du brocoli. Enfin, tout ce qui est vert en ce moment, ça commence à sortir. C'est assez beau.
Ils sont cuits tous en même temps ou il y a un ordre de cuisson en fonction de la tendreté du légume?
Voilà. Moi, je les pré-cuis généralement un petit peu ou je les blanchis. Et après, au dernier moment, on les remet juste pour les réchauffer.
Et je vois les yeux de François Morel qui passe du plan de travail à la bouteille ouverte en ce moment même par Emmanuel Rubin. Qu'est-ce qu'on boit ? Tiens, Emmanuel, je vous laisse présenter le vin.
Château Revellette 2019. Nous sommes effectivement du côté des côtes d'Aix-de-Provence, des coteaux d'Aix-de-Provence. Il doit y avoir du Syrah là-dedans.
Oui, c'est bien un Syrah qui s'accordera très bien avec l'agneau que nous allons déguster. Il y a du Syrah. Vous aimez les vins un petit peu comme ça qui sentent le soleil ?
Il y a peu de choses que j'aime pas, moi, dans les vins.
Vous êtes plutôt rouge, plutôt blanc. Il y a des régions de prédilection.
Alors, j'aime bien le rouge et le blanc. J'aime bien le rosé aussi.
Oui, mais c'est
j'aime
pas
bien le champagne.
Mais c'est pas
l'Europe.
Du rouge et du blanc mélangé, le rosé.
Non,
vous êtes au courant.
Non, je sais. Oui,
ils ont voulu le faire un moment au niveau de l'Europe.
J'aime bien on disait pas le vin est un liquide. Rouge, sauf avant 9h où il est blanc.
Ah, c'est joli, c'est de qui ça ?
Jean Carmé, je crois.
Ah, c'est bien ça. Jean Carmé que vous avez fréquenté dans Palace, non ? Avec ses brèves de comptoir.
J'ai dû le croiser, mais j'étais trop impressionné. J'étais un jeune, moi.
Ah, Jean Carmé.
J'aurais aimé le connaître plus.
Eh bien, c'est l'heure d'accueillir une nouvelle invitée à table. Elle nous fait pleurer de rire, enfin, sur Paris Première avec ses portraits face aux politiques. Elle est en tournée avec son nouveau spectacle. Sandrine Saroche, c'est le titre du spectacle et c'est son nom. Eh bien, c'est bien pratique. Et elle s'installe à la table du dimanche, ici, dans notre 15e arrondissement. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Merci d'être là.
Merci.
Alors,
d'être
je suis très content de vous rencontrer parce que je suis fan de ce que vous faites sur Paris Première et je ne suis pas le seul. Et vous avez de nombreux fans qui viennent vous voir en ce moment en spectacle. Vous vous connaissez avec François Morel ?
Non, hélas, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer.
On s'est vu
par vidéo interposée.
C'est ça. Voilà. Mais vous avez plein de points communs, et notamment l'amour de la chanson, parce que votre spectacle aussi est très musical. Hein. Vous aimez donner de la voix, et vous le faites sur Paris Première, on le voit aussi.
Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai fait du chant, en fait, je chante depuis toujours, et c'est vrai que j'ai fait du chant classique et lyrique au départ au conservatoire de Toulon.
Ah ouais.
Et
Lyrique,
ouais.
Ah ouais.
Et donc,
est-ce que vous chantiez ?
Ah, je chantais. Alors moi, j'avais une voix très, très, très aiguë. J'étais même soprano légère.
Uh-huh.
Et donc ce sont des morceaux en général qui sont assez virtuoses et donc je suis pas arrivée jusqu'à, j'ai pas fait assez d'années de chant pour arriver à chanter l'air des clochettes de l'Acmé ou la Reine de la Nuit. Ouais, j'essaye. Mais ça donne souvent un petit air de chat écrasé.
On aime vos portraits, je le disais, Sandrine, sur Paris Première dans Restons Zen, hein, avec Éric Nolot, Alba Ventura et Anaïs Bouton. C'est une chronique politico-humoristique chantée,
oui,
hein,
oui.
On peut le dire, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est tous les mercredis sur Paris Première. Vous êtes caustique, corrosif face aux invités. Comment vous travaillez ? Parce que vous y allez vraiment, vous moquez d'eux, vous chantez. D'où vient l'inspiration ?
Alors déjà, comment on travaille ? Je ne travaille pas toute seule, j'ai des co-auteurs, on est trois. Et ce sont justement deux co-auteurs qui viennent de l'univers musical et pas du tout de l'univers humoristique. Je travaille avec François Bernheim qui est compositeur.
Grand compositeur.
Voilà, qui est compositeur, qui a découvert notamment Renaud, Patricia Cass et bien d'autres. Musique de film, musique de pub, enfin bon, et tous les succès qu'on connaît. Et puis et Christian Bouclier également qui lui aussi vient de l'univers de la chanson mais qui était plutôt auteur. Et donc, lorsque Paris Première est venue me chercher, moi, je ne voulais pas travailler toute seule, tout simplement. Et donc, j'ai travaillé déjà avec François, qui avait composé les musiques originales de mon spectacle. Et je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un avec qui je pourrais travailler ? Et donc, on a cet attelage, un petit peu cette troïka. Et on se marre beaucoup. En fait, voilà, comment on travaille ? Ben, on se marre beaucoup.
Alors, dans votre spectacle, vous abordez aussi beaucoup le féminisme. Éric Zemmour faisait partie de votre émission sur Paris Première. Vous vous étiez donné comme mission de le convertir au féminisme.
J'ai pas bien réussi hein, dans cette mission, autant vous dire. Mais effectivement, je ne me suis jamais laissé faire.
Il y a encore du boulot, en fait.
Il y a encore du boulot. Oh, mais s'il y avait qu'avec lui. Il y a encore beaucoup de boulot avec beaucoup de gens, y compris des femmes, d'ailleurs, hein, parce que... Je dis à la fin de mon spectacle, je pose cette question. Est-ce qu'à part moi, ce soir, dans la salle, il y a des féministes ? Vous savez, mesdames, qu'on peut être féministe et aimer les hommes. Et vous savez, messieurs, qu'on peut être un homme et être féministe. Voilà.
Vous êtes pour un pacte féministe de non-agression, hein, vous dites, c'est ça ?
Ah bah oui, dans la mesure du possible. Ouais.
Le chant, c'est une passion commune que vous avez avec François Morel. Vous le dites depuis le début, hein, la musique est essentielle pour vous. Je vais vous faire écouter quelques chansons. Et vous allez me dire à quel moment de votre vie elles correspondent et ce qu'elles évoquent pour vous de la chanson française, naturellement. Acte 1.
Nous étions quatre bacheliers sans vergogne.
Brassens.
Brassens, bah, une, une dizaine d'années, je suis allé voir Georges Moustaki au cinéma Le Viking à Flers, quand j'avais 11 ans, avec mon frère et ma sœur. Ça, c'est marrant parce qu'après, j'ai connu Moustaki et je lui ai dit, je suis venu te voir à Flers en 1971. Et le lendemain, il m'a envoyé par mail l'article de West France correspondant à ce concert. Je me dis, mais quel garçon organisé, c'est hallucinant. Alors on a l'impression que c'était un gars un peu mou qui s'occupait de rien. En fait, ouais, il était au taquet.
Il était au RG, Georges Moustaki. Ouais. Et Brassens, vous lui avez rendu hommage dans un album avec Yolande Moreau.
Absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre?
Rien,
que Brassens, j'adore. J'avais 16 ans, j'avais écrit un texte, un poème. Elle est à toi, cette chanson, toi, le chanteur, je ne sais pas quoi. Et j'avais attendu 3 heures devant la maison Impasse Florimond dans le but de lui donner ce texte, poème. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai sonné et il y a une dame, je crois qu'il était la femme de Pierre Antonian, qui était son... Pierre Antonian, c'est possible?
Possible.
Qui était son secrétaire et qui me dit, monsieur Brassens n'habite plus là depuis des années. Et j'étais soulagé parce que j'aurais été ridicule.
Une autre chanson, tiens.
La première fois que je l'ai vu,
Mouloudji. C'est pas jeune tout ça.
Ah oui, mais c'est une belle voix. C'est pas jeune, mais ça revient parce que l'amour.
Ben c'est marrant,
cette chanson.
Je la connaissais pas, cette chanson, l'amour. Je le connais parce qu'elle était dans un film récemment, il y a 2-3 ans.
Dans
là.
Un film publicitaire aussi.
Oui, mais avant la publicité, il y a eu un an. J'adore, c'est beau. Ouais. Je l'avais vu à Domfront, Mouloudji. et il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle. Et après, le lendemain, les gens ont dit on pensait que c'était pas vrai.
Ah oui.
C'est-à-dire les gens ne pouvaient pas imaginer que Mouloudji viendrait à Domfront. Donc il n'y avait pas grand monde dans la salle. C'était magnifique. Et une fois, c'est incroyable, une fois, je suis dans un studio de la radio publique et je dois faire une publicité pour un spectacle dans lequel je joue qui s'appelle Lapin Chasseur. Et dans Lapin Chasseur, je faisais Mouloudji, le myosoti, c'est puis la rose. Donc pendant une demi-heure, je suis dans un studio où je fais cette imitation lamentable de Mouloudji. Et à un moment donné, dans le studio, une porte s'ouvre et je me suis dit, j'ai eu le temps de me dire, ce serait incroyable que Mouloudji apparaisse. Et Mouloudji est apparu pile à ce moment-là. Et je lui ai dit, monsieur, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Et il m'a dit, oh, mais je suis flatté.
Ah ben voilà,
c'était joli.
C'était bien ce spectacle parce qu'il y avait une partie qui était de la salle qui était divisée côté restaurant et côté salle aussi.
Côté salle, ouais. Côté cuisine.
Ouais, ouais.
C'était Lapin marrant, Chasseur. Ouais, c'était un beau spectacle.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Merci d'être là depuis 11h si c'est le cas et bienvenue si vous venez d'arriver. François Morel se met à table ce dimanche et Sandrine Saroche, l'humoriste montante du PAF, comme dit votre producteur. C'est une belle punchline, ça, ouais. J'ai vu ça sur le dossier.
J'adore.
Hein, c'est bien ça, mais c'est vous, elle était avec nous.
On peut dire ça de presque tout le monde d'ailleurs, c'est oui, ça qui est formidable, non, c'est non, très original.
C'est vrai que blague à part, ce n'est pas votre premier spectacle, celui que vous tournez en ce moment. Hein. Vous en avez fait des one-man
show. En 2007 avec un spectacle qui s'appelait Je suis Ségolène, puisque je me posais la question, qu'est-ce que ça changerait pour nous, les femmes, si une femme devenait présidente de la République? Bon, écoutez, maintenant, on a une femme Premier ministre, on va voir ce que ça va changer.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça.
Ça progresse. Ouais.
Tous les 30 ans.
On peut peut-être accélérer le rythme maintenant. Ouais. Et il nous régale depuis 11h, c'est David Paulin, le chef du restaurant Le Bon La Butte à Montmartre. Et ça y est, les fameuses côtes d'agneau dont vous parliez tant viennent de débarquer à table. Vous étiez inquiet, il avait peur de ne pas manger, François Morel. Décrivez ce plat, tiens, qu'est-ce que vous voyez?
C'est beau.
Non, j'aimerais mieux que vous le décriviez.
Ah, le chef, il y a des fleurs déjà.
Ça va être plus juste.
Non, c'est vraiment le plat du dimanche à partager. La côtelette, une belle jardinière de légumes avec des petits légumes croquants. Et tout simple, avec un peu de sel et une très bonne huile d'olive.
Alors, vous nous l'avez dit, vous avez cuit ces côtes d'agneau pendant 17 heures basse température. On ne peut pas tous faire ça à la maison.
Non.
Comment on peut faire à la maison pour se rapprocher de ça? On fait une grillade traditionnelle?
Moi, ce que je conseille, c'est de les faire mariner. On les fait mariner une bonne heure avant avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, ce qu'on aime, un petit peu de piment d'Espelette avec du romarin, de la sauge.
Si vous voulez, on peut faire ça, non?
On peut faire avec tout. De toute façon, quand c'est mariné, on rajoute de la tendresse sur certains.
Et la sauce, elle n'est pas grasse du tout, là?
Là, non, là, c'est juste un jus que j'ai fait réduire, qu'on a fait un petit peu réduire, avec de la sauge dans celle-ci.
Vous avez peur, vous surveillez votre ligne, vous inquiétez de du gras de la sauce?
Bah oui, mais non.
Il y a
mais
des fleurs aussi, on n'a pas parlé des belles fleurs qui sont sur...
Des petites pensées là.
Des pensées, c'est très joli.
Vous dites souvent, Sandrine Saroche, que votre manière à vous de militer, c'est de monter sur scène, de faire votre spectacle. Quels sont les sujets qui vous importent le plus sur scène, justement? On a parlé du féminisme, il est très présent, vous en riez, hein, justement.
Oui, moi, en fait, j'essaye de rire de tout ce qui peut me faire pleurer, effectivement. Alors, vous parlez de la ligne, bah ouais, ça peut me faire pleurer aussi.
Oh non.
Si, quand même. Je parle par exemple, de la vieillesse, de tout ce qui peut me contrarier au quotidien, des ados. Vous voyez, voilà,
les humoristes qui vous ont inspiré?
Alors, Sylvie Joly.
Ah, j'adore.
Évidemment. Sylvie Joly, parce que lorsque j'étais... je me souviens, j'étais au lycée à l'époque, on avait des cassettes, donc ouais. Je l'écoutais sur cassette, et puis j'apprenais ses sketchs. Et après, il y en a un qui m'a vraiment fait beaucoup rire, en tant qu'humoriste, qui n'a fait d'ailleurs qu'un spectacle, je crois, c'est Albert Dupontel. Ouais. Et Albert Dupontel, j'avais vu son spectacle, je venais d'arriver à Paris, et je suis sortie de là, j'avais mal aux joues. Et donc, c'était le spectacle avec le bac, enfin, tous ces sketchs mythiques.
Avec les sciences naturelles, quand il mime...
Madame Sartre, voilà, etc.
On ne peut pas tout dire à table, mais
c'est la philosophie, surtout. Voilà.
La philosophie.
Oui, oui, Jean-Paul Sartre.
Il est mort? Il est mort?
Et non, on vient l'apprendre, alors.
Et donc, ça, c'était... Et alors, du coup, quand les gens viennent voir mon spectacle et qui sortent et qui me disent j'ai mal aux joues, ça me fait un plaisir, parce que je me dis moi aussi j'ai vécu ça en tant que spectatrice, et ça me fait vraiment plaisir, voilà.
C'est comme une assiette vide au restaurant, c'est ce qui fait plaisir, quand les assiettes reviennent vides en cuisine.
Moi j'ai une cuisine ouverte au restaurant, et on voit tout ce qui rentre et évidemment tout ce qui sort, mais surtout tout ce qui rentre.
Combien de couverts par jour?
Moi, je suis ouvert que le soir, enfin, à part les week-ends, mais on fait...
Le soir après le théâtre ou non?
Ça dépend du théâtre. Ouais. On a un théâtre juste à côté, là.
L'atelier
oui. Donc souvent, on a des gens vers 10h, 10h30 après le théâtre ou avant.
Je le dis aux auditeurs qui nous écoutent en province, en région, comme on dit, dans nos territoires, comme disent maintenant les hommes politiques. Voilà, on parle du théâtre de l'atelier, on parle du théâtre du Rond-Point, on parle des Folies Bergères où vous serez bientôt aussi en décembre, Sandrine Saroche. Hein. Oui. Voilà de beaux endroits à visiter quand on vient en visite et de se faire un beau spectacle à Paris. On repart avec des souvenirs et des émotions. Il y a des endroits comme ça qui vous ont marqué, qui vous ont donné envie d'être sur scène.
La première fois qu'on va à la Comédie Française, quand même, on ne peut pas ne pas être stupéfait par cette beauté, par cette grandeur, cette magnificence. Le théâtre du Palais Royal aussi, je me souviens d'avoir été à un spectacle avec mes parents au Palais Royal. Ça aussi, c'était quelque chose... de marquant, la Michaudière, tous ces spectacles aussi avec les pièces de boulevard. Et puis, moi, je me souviens avoir vu il y a très longtemps, j'avais vu un spectacle au théâtre de 10 heures et j'avais adoré ce petit théâtre, ce petit petit truc. Et je m'étais dit, si je fais du théâtre, je voudrais commencer au théâtre de 10 heures. Et j'ai commencé au théâtre de 10 heures.
Magnifique, du côté de Pigalle.
Ouais, hein, À Pigalle.
Alors, on va régler son compte à cette belle côte d'agneau avec François Morel et on va commenter, on va parler un petit peu du goût. Il vient d'où cet agneau, alors David Paulin?
Il vient de l'Aveyron. C'est un agneau qui est élevé en bergerie sous la mer, donc qui est élevé simplement au lait et à la fin un tout petit peu de grain. Mais c'est un agneau qui n'a pas énormément de gras. C'est l'important de l'agneau, c'est de trouver un équilibre entre la viande et le gras. C'est ce qui donne le goût. Mais des fois, il y en a trop. Des fois, il est trop fort. Des fois, il est trop marqué. Cet agneau-là, moi, je trouve qu'on a, la puissance de l'agneau, mais on a une douceur aussi qui est assez...
Oui, c'est pas le mouton du méchoui. On est dans la subtilité de l'agneau. Ouais, voilà.
Non, mais les côtes d'agneau, quand ce sont des côtes premières comme ça, c'est les sucettes de la gastronomie, quoi. On les mange quasiment avec.
C'est bien dit. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de côtes. Vous faites bien de le rappeler, Emmanuel Rubin. Côtes premières, côtes secondes et les côtes découvertes aussi, hein, quand on va chez le boucher. Ouais.
Chacune ont leur vertu, mais lorsqu'effectivement on les cuisine brutes comme ceci, c'est vrai qu'on aime les côtes premières parce que vraiment on les pince avec le doigt, l'os doit être quasiment craquant. C'est la ballerine de la gastronomie, quoi.
J'aime bien aussi comment vous cuisinez les légumes, parce qu'ils sont tous, ils sont extrêmement craquants et j'aime pas les légumes mous.
Moi aussi.
Et là, c'est excellent.
Al dente.
Le légume, quand on cuit trop, on perd toutes les vitamines, on perd le goût, on perd tout.
Donc, tous les nutriments partent dans l'eau, mais là, ils sont cuits comment, un peu blanchis pour certains.
Oui, par exemple, les petits pois, je les blanchis une minute. Les asperges, une minute trente.
Et les carottes, combien de temps, là?
Les carottes, je crois que je les ai fait 3 ou 4 minutes ce matin.
Ah, c'est le temps de ma chronique, je respecte jamais.
Et on est d'accord quand même qu'il y a, quand même des légumes qui demandent à être mous. L'aubergine, par exemple, quand même meilleur quand c'est bien confit que lorsque quand c'est...
C'est vrai, même le navet, moi, je l'aime bien un peu étuvé, un petit peu... Légère, un pas trop fondant, croquant.
Vous avez
pas
raison,
trop
sucré. L'aubergine al dente, ça plaît pas, non?
Il y a des légumes qui ont besoin. Moi, une asperge toute molle, je ne peux pas. C'est vraiment quelque chose, c'est pas possible.
Moi, j'aime bien l'asperge molle.
J'aime le croquant, moi, dans l'asperge.
L'asperge du dimanche. C'est l'asperge du dimanche, voilà.
Celle qu'on a massacrée.
Quel genre de mangeur êtes-vous, François Morel?
Compulsif.
C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui débarque, vous mettez à table.
Non, j'aime bien manger. Vous mangez le plaisir du partage.
Du moment.
Ouais, aussi. J'adore.
Quel genre de mangeuse êtes-vous, vous, Sandrine Saroche?
Un petit peu la même chose, un peu compulsive aussi. J'aime bien me mettre à table et en général, je donne pas ma part aux autres.
Et ce qui est bien au Théâtre du Rond-Point, c'est qu'on peut manger avant le spectacle,
il y a un
après
restaurant.
Le spectacle et pendant le spectacle.
Exactement.
Et ça, on le doit arriver. C'est vraiment lui qui a installé
Non,
Renaud Barreau, il y avait un restaurant.
Et du temps de Maréchal, je me souviens aussi.
Moi qui suis beaucoup plus âgé, à l'époque de Renaud Barreau, il y avait un restaurant.
Il y avait le restaurant avec ce grand cheval.
Vous avez joué à l'époque de Maréchal?
Alors moi, j'ai joué à l'époque de Maréchal, mais j'ai joué, en fait, je faisais un spectacle particulier. C'était un spectacle du Barreau de Paris, parce que j'étais déjà une formation d'avocate. Ouais. Et donc, c'était la revue de l'UGA et on a joué. On s'était installé pendant 3 ans au théâtre du Rond-Point. Donc, j'ai connu ce restaurant. Et après, effectivement, quand Rib est arrivé, tout a été changé. Mais on dînait quand même avant aussi du temps de Maréchal.
Et bien avant, c'était une patinoire.
Absolument.
Oui, avant le théâtre Renaud Barreau, c'était une patinoire, le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Voilà, c'est notre petit point touristique, gastronomique à la capitale.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Dernière partie de la table du dimanche avec 2 invités qui font connaissance, comme on le ferait à la maison. Sandrine Saroche d'un côté. Mangez tranquillement, Sandrine. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Elle a peur que je lui donne la parole la bouche pleine, la pauvre. Mais je vais me tourner vers François Morel qui, lui, a fini sa bouchée.
Ouais.
Parce qu'on mange vraiment, vous confirmez, et on boit.
Et c'est bon.
Avec modération.
C'est excellent. Ouais.
On se régale avec David Paulin, Le Bon, La Butte, c'est son restaurant sur la Butte Montmartre à Paris. Tiens, on est en plein dans le plat du dimanche, là, avec ses côtes d'agneau et puis ses petits légumes comme ça, printaniers. Il a revisité quelque part la jardinière de légumes avec ce plat. Hein, c'est un petit mot désuet, vous qui aimez les mots un petit peu comme ça, un peu teintés de nostalgie.
Ouais. Ah bon ?
Jardinière, non ?
C'est joli.
Ah, je vois bien faire une jardinière de légumes.
Mais ça me donne envie d'en faire, oui, en tout cas.
Ouais. Elle est simple, en plus. Hein. On a eu les temps de cuisson, on a tout.
Faire de l'agneau, moi.
Ben voilà, vous penserez.
Je devrais.
Vous retrouverez la recette sur europe1.fr.
La boucherie française.
Exactement. On a peur.
L'agneau,
on le confond avec le mouton. Au niveau du goût, parfois.
On a toujours peur du mouton, du goût de suif. C'est le mal aimé, alors que franchement, c'est l'une des cuissons et l'une des chairs les plus délicates de la cuisine française.
Ouais, ouais.
François Morel, quel est votre plat du dimanche favori? Est-ce qu'il y a un plat emblématique du repas du dimanche?
C'est le poulet. Poulet frites, je suis désolé.
Non, soyez pas désolé, c'est ce qu'aiment les Français, le poulet rôti.
Je rigole, j'adore ça.
Et si on veut surveiller sa ligne, vous qui parliez de la graisse tout à l'heure, on peut faire les frites au four, ce sera un petit peu moins calorique.
C'est ce que je fais.
Hein ?
Ouais, c'est ce qu'on fait, nous.
Ah, vous voyez, c'est pas mal, ça.
Ouais.
Coupé en morceaux, on peut mettre des épices, on s'amuse avec...
On met un peu d'huile
les...
dans le fond, quand même, on les pose, quoi.
On met de l'huile dans le fond, des gousses d'ail en chemise par-dessus, du romarin, des épices, du ras el hanout, si on veut.
Frites, c'est plus comme des frites du tout, en fait. Oui, c'est des pommes de terre au four.
C'est des potatoes. Ça y est, Sandrine Saroche a fini de...
J'ai fini ma bouchée. J'ai fini mon brocoli.
Eh ben tiens, quel est le plat du dimanche emblématique pour vous? Est-ce qu'il y en a un qui vous parle du côté de Toulon, vous qui avez grandi là-bas?
Du côté de Toulon, ma mère faisait souvent de la ratatouille le dimanche, parce qu'elle avait plus le temps effectivement de cuisiner et que la ratatouille demande un petit peu de temps de préparation. Je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que moi j'aime bien quand les légumes sont... contrairement à François, quand les légumes sont bien, bien cuits, bien confits. Et donc la ratatouille, pareil, ça suppose d'être quand même, voilà, d'être, d'avoir cuit pendant quelques heures.
Ah oui, il y a plusieurs écoles de la ratatouille, à la marseillaise ou à la niçoise, avec les légumes cuits séparément et rassemblés ensuite.
Ils sont tous revenus, effectivement,
ça, c'est
séparément.
Ça, c'est à la niçoise, séparément, oui, absolument.
Écoutez, voilà, nous, on est de l'école niçoise. On était à Toulon, mais on était de l'école niçoise et on ne le savait pas, voyez.
Et on les réunit avec une fondue de tomates.
Et on les réunit, absolument, les légumes en réunion, et c'est tellement bon, tellement bon. Mais d'ailleurs, ils en ont fait un dessin animé, hein, Ratatouille, c'est pas...
Et quel succès. On en a parlé ici avec vous, Emmanuel Rubin. Bah tiens, gardez la parole, monsieur Rubin, puisque vous allez nous parler de la bistronomie. C'est vrai qu'on est venu sur ce terrain-là parce que dans vos spectacles, vous vous amusez des bobos parfois.
Mais aussi autres, des bonobos également, des bourgeois. Il y a les bourgeois bohèmes, les bobos, mais aussi les bourgeois non bohèmes, les bonobos. Attention, il y a les deux.
Qui sont les bonobos ?
Je sépare ma salle en deux, en fait. En réalité, je dis, donc lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai découvert qu'il y avait deux catégories de Parisiens. À l'est, nous avons les bourgeois bohèmes, les bobos, et à l'ouest, les bourgeois non bohèmes, les bonobos. Et donc, pendant tout le spectacle, en fait, je joue avec cette dichotomie.
Alors justement, Emmanuel, vous en profitez pour nous raconter l'histoire vraie d'un grand moment de la gastronomie bobo, mais qui est devenu vraiment rassembleur aujourd'hui, c'est la fameuse bistronomie. Explication de texte, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas
alors
encore.
Alors là, c'est le privilège de la durée ou du métier, parce que c'est du vécu. Moi, j'étais là le jour où est né ce mot bistronomie. En fait, nous sommes en novembre 2004, il y a un jeune mouvement gastronomique que les bobos connaissent bien, qui est le Fooding, et le Fooding réunit son jury pour... délibérer sur les meilleures tables qui feront l'année.
Vous étiez cofondateur du Fooding, je le précise à nos auditeurs.
Donc moi, j'étais à ce moment-là un pur bobo. Et donc, le Fooding, il aimait bien donner des noms un peu décalés pour récompenser les meilleures tables de l'année. Et à un moment donné, il fallait récompenser ce qu'on a appelé les bistrots nouvelle génération. On cherchait un mot. Alors, autant vous dire que moi, j'ai fumé à peu près toutes mes cigarettes et que le cendrier a montré que je n'avais aucune idée de la chose. Et puis, il y a un personnage que... tout le monde connaît, ou du moins tout le monde, j'espère, se souvient, c'est Sébastien Demorand.
On rend hommage, qui nous a quittés il y a 3 ans. Oui.
Exactement. À un moment donné, Sébastien Demorand, qui faisait partie du jury, dit « J'ai trouvé des gars. On va récompenser, c'est le meilleur bistronomique. » Et le mot est lâché à ce moment-là, en novembre 2004. Le premier restaurant bistronomique récompensé sera le Vieil Ami, dans l'île Saint-Louis à Paris. Et le mot va faire florès jusqu'à entrer en 2015 dans le dictionnaire. Alors, je vous donne la définition. Hein. Dans le Petit Larousse, c'est très sérieux. Bistronomie, nom féminin, de bistro et gastronomie, c'est la contraction des deux. Cuisine raffinée et inventive de type gastronomique, mais servie dans un restaurant simple, non étoilé, bistro, café ou brasserie. Et c'est toute la définition.
Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la bistronomie, ou plutôt... que lui doit-on encore à cette bistronomie dans nos assiettes et à table ?
Alors, rapidement, dans les années 80, la vérité, c'est que les bistrots, ils sont à la ramasse. Ils cuisinent de plus en plus mal. Et les Parisiens, parce que le bistrot est quand même un genre très parisien, ne le suivent plus. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération de chefs. D'abord, dans les années 90, les fameux camps de bord que vous connaissez bien, qui vont réactiver le genre. Et puis, dans les années 2000-2004, toute une génération de loulous des casseroles, les Iñaki et Spitart, les Bertrand Grébeau, les Greg Marchand, les restaurants Frenchy, Septime et autres, qui vont mettre de la créativité. Ils vont garder l'idée du restaurant simple, souple, avec des décors un peu sommaires, des prix jusqu'à alors, à l'époque en tout cas assez simple, mais mettre un peu de créativité et de gastronomie. Ce qu'on doit à la bistronomie, eh bien, c'est d'abord les vins nature. Si aujourd'hui on parle de vins bio et biodynamiques, ce sont les bistronomiques qui les ont portés haut et fort. Vous parliez de cuisine ouverte. Ce sont ces restaurateurs-là qui ont un jour décidé que la cuisine serait ouverte sur la salle, en manière de spectacle, peut-être pour plus de transparence. On leur doit aussi... et ça, je le regrette un peu plus, c'est que la nappe va quitter la table pour plus de souplesse, pour plus de convivialité. On leur doit le menu unique. Là encore, je le regrette un peu parce qu'on est un petit peu dans la cuisine aux chausse-pieds.
Ça fait rire Sandrine.
Bah oui, non, mais
on leur doit une dernière chose, et ça, beaucoup plus important. Les chefs signaient leurs cartes. Les pâtissiers, dans les années 90-2000, ont signé leurs cartes. Mais les bistronomiques ont une fibre écologique, une fibre locavoriste. Et c'est vrai que ce sont les premiers à dire on va être très transparent dans notre sourcing. Dans
la façon de s'approvisionner, de travailler avec les fournisseurs.
Exactement, dans nos producteurs. Ils vont commencer à révéler leurs fournisseurs, voire à signer. On parlait de Jean-Marie, Yves-Marie Le Bourdonnec, le boucher. Eh bien, chacun des produits qui vont activer leur cuisine sera signé. Et on leur doit vraiment la revanche des artisans et des producteurs. Donc, la bistronomie, aujourd'hui, est un peu la caricature d'elle-même. C'est normal, ça fait 20 ans. mais en tout cas, elle a bousculé les choses.
Et
bien,
l'œuf mayonnaise, le...
Oui, mais retravailler, revisiter.
Ouais, mais totalement retravailler. Oui, on est sur un mélange terre-mer, tu vois. À ce moment-là, on a quand même mis un anchois pour faire le mélange terre-mer.
Voilà. Alors,
c'est tout le snobisme, au fait.
Voilà. Et je crois que la grande vertu de la bistronomie, c'est ça exactement. Ouais. C'est que les comiques s'en emparent pour mieux la caricaturer.
Ouais.
Alors, c'est tout à fait vrai, c'est normal, c'est légitime, parce qu'aujourd'hui, elle a un peu la caricature d'eux-mêmes. Vous savez, c'est l'instant où le ridicule devient précieux. Il n'empêche que lorsqu'un comique commence à se moquer quelque chose, c'est que ce quelque chose a quand même une vertu.
Oui, exactement.
Mais c'est, notoriété.
C'est ça. Une notoriété.
Et on vous parle aussi beaucoup dans ces restaurants-là des vignerons comme si vous les connaissiez.
Oui, c'est ça, hein, c'est nos amis. On a vu le petit pois pousser, en fait. C'est
le cri de la carotte.
Le cri de la carotte. Oui, bien sûr.
On va partir sur un coteau du... Non, on va partir.
On va rester là et on va déguster un dessert qui devrait plaire, tiens, à François Morel. Ça fait écho à un de ses desserts préférés.
Qu'est-ce c'est un que Paris-Brest. C'est
David Paulin, racontez-nous.
Enfin, moi, je suis pas vraiment à Paris. Je suis à Montmartre. Donc, on l'a rappelé Montmartre-Brest.
Oh.
Donc,
c'est ça.
En tant que vraiment gros bobo, puisque là, je me suis reconnu à 150%.
Vous avez carrément fait sécession, vous, à Montmartre.
Là, on a retravaillé sur le Paris-Brest avec une crème légère à la praline. Et puis un petit insert à la praline. Et surtout, sur le craquelin, on a rajouté une épice qui s'appelle le duca, qui est un mélange d'épices à base de cumin et de cardamome, qui vient d'Égypte. Et ça laisse une belle profondeur en bouche sur la fin.
Excusez-moi, mais je n'ai pas fini mon plat.
Finissez l'agneau, mélangez, soyez bistronomique, foutez-moi le Paris-Brest sur la côte d'Agneau, ça ira très bien.
C'est ça, on sait que ça évoque quelque chose pour vous, le Paris-Brest, François Morel.
Oui, c'était aussi le dessert préféré de Raymond Devos.
Aussi.
Oui. Parce que j'ai connu le maire de la ville où habite Raymond Devos était pâtissier. Et en général, quand Raymond Devos venait à la pâtisserie, il disait, vous voulez des desserts, vous serez combien ? 6. Et en fait, ils étaient seulement 2, lui et sa femme.
Pour être bien servi, évidemment. Et le Paris-Brest, c'est le vrai dessert du dimanche. C'est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Si, ça passe vite.
Pourquoi ?
Quand on est en bonne compagnie. Oui.
On revient la semaine prochaine.
Oui, mais c'est pas fini. Je voudrais vos coups de cœur avant pour nos auditeurs. Les auditeurs réclament les coups de cœur de nos invités chaque dimanche. Donc, je vous écoute. Tiens, la parole est à Sandrine Saroche. Un coup de cœur culturel, un spectacle, film, une exposition,
Voulez. Une exposition, j'ai eu la chance d'aller récemment voir une exposition qui s'appelle Éternelle Notre-Dame, qui n'est pas une exposition fugace, mais qui va durer dans le temps. Et donc, j'ai vécu 850 ans d'histoire en trois quarts d'heure. C'est une exposition immersive et virtuelle.
Réalité virtuelle.
Réalité
c'est ça.
Virtuelle, mais avec une technicité incroyable. Alors, je ne peux pas vous expliquer cette partie-là. J'y suis allée avec mon fils. Je suis restée dans cette exposition pendant des jours et des jours, tellement c'est une expérience incroyable. Et lui, il a 17 ans en général, il traîne des pieds pour aller voir une expo.
C'était où ça ?
Il a adoré. Alors c'est à la Défense, c'est au pied de la Grande Arche. Mais de ce que j'ai compris, ils vont venir à partir du mois de septembre. Ils seront sur les lieux de Notre-Dame, je crois dans le parking, parce qu'il suffit d'avoir un grand local pour pouvoir faire ça. Parce qu'on n'est pas, pas dans un cinéma, on a un casque et un ordinateur dans le dos. Donc c'est pour ça que c'est à partir de 11 ans seulement, les trop petits ne pourraient pas tenir pendant trois quarts d'heure un ordinateur, mais c'est incroyable, juste incroyable.
Monsieur Morel, votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, vous avez vu dans mon spectacle, il y a un conférencier qui s'appelle Romain Lemire.
Absolument.
Et qui ne chante pas du tout
et
dans le spectacle.
Bien, et qui parle très bien.
Qui parle très bien, mais c'est aussi un chanteur et c'est un poète magnifique. Et il vient de sortir un CD qui s'appelle Monument aux vivants, et c'est d'une beauté absolue. Ce sont des textes magnifiques. Ça a été orchestré par Antoine Salaire et c'est vraiment un très beau disque qui accompagne des belles soirées d'amitié.
Et on vous mettra les références sur europe1.fr et je rappelle votre actualité à tous les deux. Tous les marins sont des chanteurs au Théâtre du Rond-Point. C'est votre spectacle dans lequel vous chantez avec votre troupe et votre bande, Monsieur Morel. Et Sandrine Saroche, titre du spectacle, c'est simple. Sandrine Saroche, en tournée actuellement, le 3 juin à Chalon-sur-Saône, le 18 juin au Palais des Congrès de Versailles et le 24 juin à Toulouse et aux Folies Bergères du 1er au 18 décembre avec un grand compositeur qui est avec nous d'ailleurs, que j'aperçois que je n'avais pas vu, Monsieur François Bernheim, qui est avec nous à la table du dimanche et qui a mis en musique votre spectacle.
Oui, tout à fait, avec qui on travaille donc tous les lundis pour écrire la chronique.
Eh bien, chantons et rions, les amis. Merci d'être venu à la table du dimanche.
Merci
David Paulin pour la belle régalade. Salut Emmanuel Rubin.
Je leur serai un coup de gibolin.
Vous pouvez, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.